Merci Anne Fauquemberg, ping-pong en direct donc de cette salle du Sénéchal pour le marathon des mots à Toulouse. Tout de suite, on déhousse les raquettes. Et bien voilà.
Bonsoir, je suis Zoé Valdez.
One, two, three.
Bonsoir, je suis Keiji Kagame.
Et je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenen. Zoé Valdez, écrivain et à jamais havanaise. Après la publication en France de votre roman Le Néant Quotidien, qui décrivait la grande dépression cubaine des années 1990, vous êtes contrainte à l'exil pour insoumission au régime et écrivez-vous un 22 janvier 1995, j'ai quitté la ville pour toujours. Applaudissements dramatiques. C'est donc Zoé Valdez dans le texte. Et aujourd'hui, vous et votre dernier roman, La Havane, mon amour, publié chez Artaud, êtes des invités vedettes de cette 13e édition du Marathon des mots, dont le thème est Mundo Latino et qui donnera à entendre la voix d'écrivains du Mexique, de Bolivie, du Venezuela, de Porto Rico, d'Haïti ou encore donc de Cuba. Keiji Kagame, quant à vous, comédienne, je le disais, vous n'êtes pas havanaise, vous êtes genevoise, vous êtes la fille de parents rwandais, tutsi, et vous avez été révélée au théâtre, rien moins que par Bob Wilson, dans sa mise en scène des Nègres de Jean Genet, et bientôt vous serez au TNP de Villeurbanne, dans Oedipe Roy et de Sophocle, et Affabulazione de Pasolini, mise en scène par Gilles Pastor. Et en ce moment, vous êtes ici, au Marathon des mots, pour prêter votre voix. Hier, c'était au texte du Mexicain Enrique Serna, et demain, ce sera à ceux du Cubain Leonardo Padura, et à ceux de Patrick Chamoiseau. Ce sera demain à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, à 14h30.
Or it could be less than nothing.
Good to know, so you agree.
That's right.
What a waste of a lovely night.
Mais alors, que se passe-t-il? Nous sommes à Toulouse au Marathon des mots et voilà que cette émission s'ouvre sur un film au titre onomatopesque, La La Land. On aurait imaginé davantage de littérature, mais ici, de toute façon, on ne cherche pas à séparer les arts, mais à les conjuguer. C'est le principe même de ce marathon de lecture, porté par des voix venues entre autres du grand écran. Cette année, Ariane Ascaride, Clotilde Courau, Irène Jacob, parmi celles-ci. Pourquoi nous écoutions ce bref extrait de La La Land? C'est qu'il est un événement annoncé le 29 juin prochain pour la fête du cinéma, dont se font écho les pages de notre partenaire Gradia, 130 costumes et accessoires tirés de films mis aux enchères par le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Vente au profit d'une association, Rêve de Cinéma, qui intervient auprès des enfants malades et leur propose notamment de nombreuses projections. Alors c'est donc un rêve de ciné fétichiste pour la bonne cause, où certes on pourra trouver l'affiche de La La Land, mais aussi le tailleur ensanglanté de Nathalie Portman dans le rôle de Jackie Kennedy, la robe de juge enceinte de Sandrine Kiberlain dans 9 mois ferme d'Albert Dupontel, mais aussi, et c'est très important, les lunettes de Jean-Luc Godard, qui vous aide à distinguer le visible et l'invisible, important car comme il le dit, si vous ne filmez que le visible, c'est un téléfilm que vous faites. C'est merveilleux.
Il y a des gestes pour le public, mais aussi pour notre réalisateur Thomas Beau, en fait. Faut pas s'y...
Il y a un petit mélange. C'est un petit ping-pong de gestes. Une question tout de suite à vous, Zoé Valdez, la scénariste. Ça vous tente les lunettes de Jean-Luc Godard ou vous n'êtes pas du tout ciné-fétichiste?
Oui, bien sûr. Oui, mais il me tente beaucoup de choses, d'objets de cinéma, évidemment. Oui.
C'est quoi votre objet mythique de cinéma?
J'aimerais bien, par exemple, le petit piano de Casablanca, c'est quelque chose qui me tente beaucoup, ou évidemment un bijou de Marlène Dietrich, qui est toujours une de mes comédiennes favorites. Oui.
Et si on parle de La Havane, mon amour, donc ce roman dont vous allez lire un extrait, qui sera lui ici au Marathon des mots, c'est un écho au film d'Alain René, Hiroshima, mon amour, Zoé Valdez?
Oui, c'est un écho surtout de Hiroshima, mon amour. C'est un jeu de mots avec surtout la Havane et Hiroshima, mais aussi avec les personnages qui, en étant à La Havane, essayaient de parler comme dans le film d'Hiroshima.
Keiji Kagame, malheureusement, dans cette vente aux enchères d'accessoires de cinéma, il n'y aura pas la superbe robe fourreau que vous portiez dans la mise en scène de Bob Wilson, des nègres de Jean Genet. Vous l'avez gardée avec vous, vous l'avez vendue. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette magnifique robe?
Alors, cette magnifique robe qui a été d'ailleurs designée par Moïdele Bikel, qui est malheureusement partie l'année dernière, Robert Wilson l'a achetée et puis en fait elle est exposée au Watermill Center dans son centre de résidence et de performance à New York, à Long Island.
Et vous avez aussi des objets fétiches de cinéma pour le coup? Vous qu'on connaît davantage dans une carrière théâtrale jusqu'ici, Keiji Kagame.
Théâtrale et j'espère un jour au cinéma. Des objets fétiches, j'en ai beaucoup plus dans la vie normale que au cinéma. Je sais pas trop.
Un livre.
Ah oui, un livre.
Par exemple.
Un livre de Patrick Chamoiseau, La matière de l'absence, et puis évidemment Zoé Valdès, dont je n'ai pas encore découvert l'œuvre, mais dont je me réjouis.
Elle est votre fétiche.
Oui, mais je vais pas la mettre mal à l'aise.
Voilà, peut-être que c'est début d'émission. Allons-y doucement. En tout cas, rencontre ce soir, échange, lecture et marathon entre vous, Zoé Valdès, et vous, Keiji Kagame. Les mots, bien sûr.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
J'étais très parisienne. À Paris, je suis très havanaise. Je ne peux pas m'en empêcher. Et je l'assume dans les refuges de ma langue, les havanais, comme une forme de résistance. Les havanais est un langage doux qui glisse sur le toboggan de la langue jusqu'à la pointe d'où s'élancent les mots humides comme d'un trampoline. Je suis née à la clinique Reine, dans la rue Reine, au temps où il restait encore des cliniques à Cuba. L'obstétricien qui s'est occupé de ma mère, Ganganelli, était d'origine italienne. C'était l'époque où l'on offrait aux femmes enceintes un bouquet de fleurs, rose si elles accouchaient d'une fille, et bleu si elles donnaient les jours à un garçon. On leur offrait aussi une partie des trousseaux de naissance, les tout payés par la clinique à laquelle ma mère était affiliée. Nous nous sommes installés tout près de la clinique rue Estrella, dans le centre de la Havane. Mon père avait loué un petit appartement dont l'entrée donnait sur un couloir comme dans les vieux immeubles havanais. J'avais 2 mois quand mes parents se sont séparés et nous avons déménagé, ma mère, ma grand-mère maternelle et moi, au numéro 160 de la rue Muraille, entre les rues de Cuba et de San Ignacio, au cœur de la vieille Havane, la partie de la ville dont je me sens originaire. C'est dans la vieille Havane que j'ai grandi, rue Muraille, dans cette rue au parfum d'anis, imprégnée d'une étrange odeur d'anis del Mono qui s'exhalait de toutes parts et montait, je ne sais pas si l'on peut toujours les respirer, ces parfums, depuis l'avenue Aduana del Puerto jusqu'à la rue Egido où se trouvait le cinéma Universal et où se trouve toujours l'association espagnole Rosalía de Castro. Existe-t-il encore ce cinéma? Je ne le sais pas non plus. Tant de cinémas ont peu à peu disparu de l'île. J'ai grandi dans cette vieille Havane, à demi détruite, entourée de décombres de pierres qui parlaient. Les pierres, en tout cas, parlaient avec moi. Aussi bien les petits cailloux tout fins que la rocaille brute et les grosses pierres lourdingues, avec leur infini ton de voix, écus, criards, grinçants, rocs, effrayants, puissants, fragiles. C'était là des conversations imaginaires, comme tout assez naturel chez moi. Je me suis toujours entretenue aussi bien à voix haute avec les humains qu'en silence avec les morts et les objets, et inversement, à voix basse avec les vivants et à haute voix avec les pierres.
Mon amour, lu par son auteur, Zoé Valdès, ça promet quelques difficultés, quelques sueurs froides à la comédienne qui va vous lire ce soir à 20h30, salle Jean Dieuzède à Saint-Orens-de-Gameville. Zoé Valdès, on l'entend dans l'extrait que vous avez choisi de La Havane, mon amour. La ville, c'est un unique baiser avec la langue. C'est une langue humide que vous choisissez pour dire la ville, mais là, on a droit à la langue française, puisque vous parlez le havanais, est-ce que vous nous donneriez quelques mots en havanais qui nous permettent de savoir comment on dit la ville?
Ay, chico, estate tranquilo, que quieres que te digan habanero? En hablanero, más bien.
Écoute, garçon, qu'est-ce que tu veux que je te dise en havanais? Mais je le parle très bien.
Hablanero, c'est la façon de parler des havanais, c'est-à-dire hablar et habanero. C'est un mélange, c'est un mot qui a été inventé par Guillermo Cabrera Infante, qui était, à mon avis, qui est toujours le grand écrivain de La Havane, surtout.
Zoé Valdès, justement, un mot sur La Havane, mon amour, comme un livre d'hommage à la fiction littéraire sur La Havane. On est au marathon des mots, et en fait, c'est une sorte de panthéon de tous vos auteurs lorsque vous arpentez cette Havane depuis la France, parce qu'en fait, elle est mémorielle, comme ça, elle est proustienne. En quoi vous nous offrez votre bibliothèque intérieure, Zoé Valdès?
Oui, c'est la bibliothèque, c'est surtout les auteurs qui m'ont formée comme être humain d'abord, et comme femme et comme écrivain. Et il y a aussi, évidemment, la musique qui est très liée chez moi avec la littérature, l'écriture. Il y a des grands auteurs de bolero, de cha-cha-cha, de guaguancó, de guarachas, qui sont aussi, à mon avis, des grands poètes de la littérature musicale cubaine.
Et alors, vous dites que la véritable Havane n'existe que dans la littérature. Mais qu'est-ce qui reste aux Havanaises et aux Havanais qui vivent aujourd'hui la vie quotidienne de La Havane? Ils sont dans une fausse ville? Dans un simulacre?
Non, c'est encore pire. Ils sont dans les ruines physiques et les ruines morales de cette ville, qui était une ville splendide, qui était une ville d'une grande richesse culturelle. Mais je pense aussi que c'est une... ce sont les ruines aussi qui vont un jour témoigner de tous ces 58 ans d'histoire, de la dernière histoire de La Havane et de Cuba.
Vous l'écrivez, hein, vous dites « Cette Havane-là, le destin me l'a réservée en me faisant naître trop tard. C'est une Havane qui est meurtrie, qui est abîmée comme l'écorchure à la cheville d'une adolescente frappée par son beau-père. Cette Havane, j'ai pu la sauver grâce à mes virées nocturnes et mes lectures noctambules de grands écrivains tels Eugène Sue dans Les Mystères de Paris. » Et vous avez donc imaginé, vous aussi, vos mystères de La Havane, c'est tissé de fiction, de légendes cubaines et de légendes inventées par Zoé Valdès, ce livre. Mais en quoi c'est aussi votre autobiographie, fondamentalement? Parce que au détour de La Havane, c'est le portrait de Zoé Valdès.
Oui, bien sûr, il y a une partie très importante de ma vie, parce que j'ai voulu d'abord écrire un livre sur ma mère et sur la mer qui entoure La Havane. Cette présence extérieure et liquide qui forme partie de la ville, très importante de la ville, parce que les Havanais vont le soir là-bas pour prendre l'air, pour parler, pour faire l'amour, pour se toucher, pour danser, pour chanter, devant la mer qui aussi le donne de son côté, aussi son chant, son rythme, sa mélodie. Et j'ai fini par écrire un livre sur ma ville et sur ma vie.
Alors vous dites notamment dans ce livre La Havane, mon amour, Zoé Valdès, que La Havane est une bête. Il y a des comparaisons animales, et Kaïgé Kagame, vous, à votre façon, vous avez grandi en exil, puisque je le disais, vos parents sont rwandais, et vous êtes né en Suisse, vous êtes suisse, vous avez grandi à Genève, donc votre ville, à vous, votre Havane, c'est Genève, mais il y a aussi cette ville presque inconnu, je crois, de vous, qui est Kigali. Comment est-ce que vous vous représentez la ville de Kigali? Est-ce que c'est aussi une bête? Est-ce que c'est un mot dans votre esprit?
Non, c'est une ville qui, pour moi, est très concrète, puisque j'y suis quand même retournée souvent avec ma famille après le génocide de 94. Et en fait, étant enfant, j'y suis allée très souvent parce que mes parents me payaient aussi le billet. Et puis ensuite, il y a la vie, le métier qui a fait que j'y allais un petit peu moins souvent. Mais j'ai un lien très très fort avec, avec mes racines. Mon père habite là-bas. Ouais.
Et alors qu'est-ce que c'est que cette ville? Est-ce que ça pourrait être un animal aussi, comme chez Zoé Valdez, quand la Havane est une chienne qu'on imagine errante comme ça?
Oh, c'est une ville, c'est la ville de mon père, c'est la ville aux mille collines, c'est la ville qui me manque d'ailleurs parce que je n'y suis pas retournée depuis maintenant plus d'un an. Mais ouais, j'ai un rapport très très fort. Je ne sais pas si c'est un animal, mais...
Vous en rêvez la nuit, comme Zoé Valdez peut rêver de la Havane. Elle rêve, elle fait toujours le même rêve. Elle est dans le marais à Paris où elle habite et puis elle se retrouve soudainement à la Havane. Vous rêvez, vous, de Kigali, du Rwanda?
Je rêve d'y retourner. C'est plus concret, en tout cas, que c'est d'ailleurs assez amusant parce que la Havane, mon parrain était cubain et il venait aussi de la Havane. Et la dernière fois que j'y suis allée, c'était malheureusement pour lui dire au revoir parce qu'il est décédé en 2009. Et j'y ai passé 3 semaines de joie, entre guillemets, parce que là-bas, je pense que les latinos, ils ont plus l'habitude de célébrer la vie de quelqu'un à son départ que... Donc, je suis extrêmement émue d'être à vos côtés aujourd'hui. C'est un bel hommage pour lui, Victor Hugo de la Torre, et puis d'être avec vous ce soir.
Mais alors, racontez...
Un exil qui résonne avec celui de Zoé Valdez, qui est une écrivaine exilée et qui se définit comme telle, par nécessité. Un jour, hein, dans les années 90, vous avez signé chez Actes Sud, vous ne saviez pas, vous n'aviez pas le droit de le faire, et ça a été donc compris comme une action contre le pouvoir à Cuba, et donc vous avez été forcé à l'exil. Vous avez vécu un autre exil, vous, Kaiji Kigami, c'est lorsque vous êtes retrouvé à Lyon. Alors c'est un drôle d'exil, mais entre Genève et Lyon, je crois que ça vous a paru voilà, assez terrible, et vous avez eu la sodade, comme on dit.
Non, ça n'a pas été terrible. C'était surtout, enfin, je suis allée à Lyon parce que j'ai été admise à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, l'ENSAT. Et en fait, ça faisait un an que j'avais décidé de faire du théâtre. Et puis, j'ai eu la chance d'être admise assez rapidement. Et comme c'est une école, voilà, très professionnelle, enfin, voilà, on sait pourquoi on est là. Moi, ça a été très très rapide et puis j'ai pris un petit temps d'adaptation effectivement parce que voilà, j'ai pris un temps d'adaptation, mais c'était pas douloureux, c'était juste de, à un moment donné, me rendre compte qui j'étais, pourquoi je faisais ça, enfin les doutes, etc. Voilà.
Alors puisqu'on en est à faire comme ça une odyssée urbaine dans les villes, Zoé Valdez, aujourd'hui nous sommes toutes et tous au Marathon des mots, ici à Toulouse. On dit parfois que c'est la ville rose, parfois que c'est la ville rouge. C'est à vos yeux, qui arpentez la ville depuis quelques heures et peut-être depuis quelques années, je ne sais pas. C'est aussi, et j'y reviens, une bête, Toulouse. C'est un animal?
Je sais pas.
Il y a des réponses dans le public.
J'ai pas pu...
Ça peut être un animal majestueux, une licorne.
Oui, ça peut être aussi. Mais ça peut être en tout cas, ce n'est pas, une ville d'une seule couleur. C'est une ville de multiples couleurs, colores, et avec une diversité extraordinaire, et une vie extraordinaire. Et ça, c'est à remercier toujours. Et à le vivre d'une façon... émouvante, toujours.
Alors là, aux Toulousaines et aux Toulousains, de s'applaudir eux-mêmes, quand même.
Et d'applaudir Zoé Valdez. On parlait d'exil tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a cette mise en exergue au début de La Havane, mon amour. Quel droit plus sacré que de vivre sur le sol où l'on est né? C'est signé de Maria de las Mercedes y Montalvo, comtesse de Merlin, qui vous a beaucoup inspiré et qui écrit donc au 19e siècle sur Cuba et sur La Havane. Vous, l'écrivaine exilée, un peu comme Dany Laferrière, écrit toujours sur Haïti depuis Montréal. Vous écrivez toujours sur Cuba depuis la France. Comment vous vivez la mort de Fidel Castro cette année, hein, novembre 2016, il faut le rappeler, et peut-être la fin de, ou pas, de ce sujet littéraire de toute votre œuvre, Zoé Valdez?
Ce n'est pas encore la fin parce que la
tyrannie est toujours là, donc on ne peut pas parler d'un final, on ne peut pas. Et à vrai dire, il était déjà mort pour moi, donc j'ai fêté parce que je attendais ce moment, évidemment.
Vous êtes née en même temps qu'il a pris le pouvoir, il faut le rappeler,
oui,
en 59.
Oui, oui. De toute façon, c'est vrai, comme elle disait, à Cuba, les gens ont resté en silence, un silence obligé à ce moment-là. Et par contre, en exil, les gens ont vraiment fêté, pas la mort, mais la fin d'un personnage qui s'est emparé de l'âme cubaine, qui a volé l'âme cubaine et qui a surtout mis en miettes l'âme cubaine et le cœur du cubain. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est un personnage qui a tout pris, qui a tout, merci beaucoup, qui a tout.
Vous parlez d'un gangster, un caïd, hein, qui a vendu Cuba d'abord aux Soviétiques, oui, puis aux Américains. Oui. Et vous ne comprenez pas la douceur du regard, parfois, que peuvent avoir certains pays sur la dictature qui a été celle de Fidel Castro.
Je n'ai pas compris la question.
Vous ne comprenez pas la douceur ou la vie un peu nuancée sur ce que vous considérez quand même comme une période extrêmement tyrannique, et vous avez l'impression qu'on ne le prend pas pour ce qu'elle est, cette séquence de l'histoire, Zoé Valdés.
Ici, en France?
En France et dans d'autres pays.
Mais c'est normal parce qu'on a... On a raconté tellement de mensonges autour de Cuba et de son histoire récente. Et puis, je comprends aussi qu'il y a une espèce de sympathie pour une révolution qui a laissé d'être une révolution très, très tôt et très vite. Et, parce que d'abord, les révolutions ne durent pas 58 ans. Et ça devient une autre chose. Ça change avec les morts, avec la quantité de gens qui ont dû aller en prison obligés, qui ont été emprisonnés, et puis aussi par la quantité des gens, 20% de la population, qui a dû partir en exil.
K.I.G. Kagame, le fait qu'on vous reçoive toutes les deux ce soir avec Zoé Valdés, ça a quelque chose de contingent, c'est la magie ou l'alchimie de la programmation du Marathon des mots, et en même temps, il y a cette situation qu'on évoque parallèle entre vos deux destins, vos deux histoires. Est-ce que ce qui s'est passé au Rwanda, le génocide des Tutsis en 1994, et ce qui se passe depuis la reconstruction du pays, sous l'autorité d'un certain Monsieur Kagame d'ailleurs, c'est quelque chose dont vous vous emparez à votre façon, ou que pour l'instant vous n'osez pas affronter par votre art, comme le fait Zoé Valdés avec la question cubaine, la question politique.
La question du génocide des Tutsis, vous dites.
Et de l'histoire du Rwanda, son histoire d'aujourd'hui,
oui,
aussi,
alors
contemporaine.
C'est une chose qui me constitue, alors qui évidemment transparaît dans j'espère, tous les projets sur lesquels je vais être amenée à travailler, parce que c'est des questions fondamentales, la question de l'humain, de en l'occurrence, les génocides de Tutsis du Rwanda, on fait chaque année. Enfin, je suis désolée, je suis assez émue, mais c'est évidemment quelque chose qui est en moi et qui et je suis désolée, je n'arrive pas très bien à répondre à cette question.
Il y a l'expérience, je crois, quand vous étiez adolescente, d'un spectacle de théâtre qui, ouais, s'appelait justement Rwanda 94, ouais, mis en scène par le collectif du groupe OFF. Mm-hmm. Vous dites que quand vous l'avez vu, vous étiez juste une ado et que je crois que c'est votre père qui tenait à ce que vous voyiez ce spectacle.
Ouais, exactement.
Ça a pu jouer malgré tout, bien que ce soit au départ une obligation culturelle et qui avait forcément une dimension supplémentaire. Ça a joué un rôle dans le fait que vous êtes comédienne et singulièrement,
oui,
au théâtre aujourd'hui.
Bah, bien sûr que ça le joue, et puis d'ailleurs je pense que le fait que je trouve pas les mots joue d'autant plus là maintenant, parce que j'aimerais pouvoir m'exprimer au mieux à ce sujet, mais c'est C'est un peu compliqué, mais c'est d'ailleurs pour ça que je suis contente de pouvoir travailler au théâtre ou au cinéma, et puis d'avoir de la chance qu'il y ait des auteurs qui trouvent les mots pour pouvoir parler de ces questions fondamentales. Et voilà.
Trouver les mots, bravo. Trouver les mots, la liberté dans les mots, c'est un peu ça l'enjeu, Kaiji Kagame. Et je me dis aussi que c'est ce qui se passe avec Zoé Valdez. C'est-à-dire que vous le dites, quand vous grandissiez dans cette chambre à quatre, c'est la rue d'abord le territoire de liberté. Et c'est les livres vraiment qui vont être l'espace de liberté. Parce que quelqu'un regarde toujours derrière votre épaule lorsque vous êtes à Cuba, vous pouvez pas prendre n'importe quel livre. Lorsqu'on est à la maison, on fait des fausses couvertures avec des ouvrages officiels pour pouvoir lire ce qu'on a envie de lire. Je crois que vous avez recopié à la main entièrement les livres de Marguerite Yourcenar. Donc, en quoi c'est devenu votre passeport, vraiment, pour la liberté, et votre plus grand attachement à la liberté dans les livres, Zoé Valdez?
Vous savez, quand je suis partie de Cuba, je ne savais pas que j'allais être interdite à cause du Néant Quotidien, mon roman publié chez Altes Sud en 1995. Et ce que j'ai mis dans cette valise, qui était la mienne, c'était les livres. Je pense que par intuition, je me suis dit, les vêtements, c'est pas important. Le plus important, ce sont mes livres. Les livres, surtout, qui étaient mes préférés, je pas publié à Cuba forcément, parce que j'avais pas mal d'éditions étrangères aussi qu'on m'avait données, qu'on m'avait fait cadeau, des touristes, des journalistes français qui venaient à Cuba et qui me passaient comme ça un livre de Reinaldo Arenas, par exemple, qui est allé en prison, qui était interdit à Cuba, qui s'est suicidé à New York. Et qui a écrit ses merveilleuses mémoires avant la nuit. Et ce sont les livres qui ont occupé l'espace de ma valise et qui ont occupé toujours, surtout en exil, les plus importants, l'espace le plus important de ma vie. C'est, comme vous venez de dire, à mon avis, c'est le passeport pour aller partout et pour pouvoir surtout vivre et résister par la lecture. La lecture, c'est, à mon avis, l'arme la plus importante d'un écrivain, mais aussi d'un être humain.
Mais alors, vous avez forgé une autre arme, sans doute en partie à partir de la lecture, c'est l'écriture, Zoé Valdez. On va parler de Patrick Chamoiseau dans un instant, avec Kaiji Kagame, qui est venue avec un livre de Chamoiseau, dont elle lira des extraits en public dans le cadre du Marathon des mots. Patrick Chamoiseau a écrit un livre qui s'appelle « Écrire en pays dominé » où il dit à partir de chaque auteur qu'il a mis dans sa valise qu'est-ce qu'il lui a pris. Et là vous parliez de Reynas par exemple, lui, qu'est-ce que vous avez pris chez lui pour faire forger votre écriture?
Le livre que j'ai pris de Reinaldo Arenas, c'est un livre qui me touche beaucoup, qui a été publié en 66 à Cuba, quand il était encore un écrivain accepté, ou mieux toléré. Et c'est son premier roman, c'est Celestino avant la nuit, avant l'aube, pardon. Il avait écrit après, à la fin de sa vie, avant la nuit, mais il a écrit un premier livre qui s'appelle justement Celestino, qui est le personnage, avant l'aube. Et c'est une histoire magnifique, très très belle, d'un enfant de la campagne. C'est son histoire. Et ce n'est pas seulement une histoire avec un langage très poétique, écrit avec un langage magnifique et très très beau. Il y a aussi, évidemment, l'histoire de la campagne cubaine qui est très très peu racontée dans les livres des écrivains contemporains.
Moi, je me suis rendu compte, Zoé Valdez, en parcourant comme ça votre vie sans compulsivement tout aller chercher, qu'à chaque fois que vous écriviez ou que vous publiez, il se passait quelque chose de l'ordre de la sanction. Si on y réfléchit, à 17 ans, vous gagnez le premier prix au Mexique pour un recueil de poésie, ça s'appelle « Réponse » pour vivre. Et alors là, les apparatchiks vont retenir la publication du livre pendant 7 ans. C'est pas possible que cette jeune fille gagne et qu'on puisse la lire ensuite. Quand on réfléchit ensuite, vous recevez un prix littéraire lorsque vous arrivez à Paris, ça vous coûte un divorce. Et puis donc vous signez chez Actes Sud en 91 ce roman donc sur le néant quotidien. Là, ça vous coûte l'exil. Comment est-ce qu'on écrit dans des conditions où à chaque fois il y a un problème, on se brûle les doigts?
Mais c'est ça le mystère de la littérature et la vie de l'écrivain. La vie de l'écrivain, quand on me dit c'est magnifique, j'ai passé un magnifique moment en écrivant ce livre, je trouve ça un peu bizarre parce que l'écrivain c'est de la souffrance, c'est aussi faut payer les prix, il faut être prêt pour les meilleurs mais surtout pour les pires. Vous savez, j'avais écrit ce livre à 17 ans, Réponse pour vivre. Mais quel idiote j'étais, Réponse pour vivre à 17 ans, c'était plutôt des questions pour vivre. Même aujourd'hui, 58 ans que j'ai aujourd'hui, j'ai que des questions pour vivre. Donc vous voyez, je pense que j'ai payé à cette époque-là, pas seulement évidemment la jalousie d'un apparatchik ou la haine d'un apparatchik, mais aussi l'ingénuité d'écrire avec 17 ans un livre avec ce titre tellement prétentieux et tellement inutile.
Vous vous seriez censuré vous-même, Zoé Valdès.
Mais j'ai juste une petite question un peu inquiète au sujet de ce livre que vous venez présenter au Marathon des mots cette année, La Havane, mon amour. Ça s'est accompagné, la publication de ce livre, de quel drame, de quel chagrin d'amour?
Troisième divorce.
Vous voyez, à chaque fois.
Mais, je vais me remarier, je vais réécrire un livre et je vais encore peut-être divorcer.
Bravo!
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui encourage à écrire des livres, même si ça coûte un divorce. À suivre, nous allons entendre ce texte de Patrick Chamoiseau évoqué à l'instant par Martin, élu par Kaigé Kagame. Et puis, nous irons nous balader dans ce merveilleux nègre de Jean Genet, imaginé par Bob Wilson. Et toujours en la compagnie de Zoé Valdès, qui prend tous les risques.
Ping Pong. La culture sans limite.
Ima Fata, sortons, sortons. Ce n'est pas un appel à l'exil que nous lancent à présent les Maliens de Songoï Blues. Sortons, c'est leur invitation à aller danser, en boîte ou ailleurs, mais tous ensemble, qu'on soit du Nord Mali ou du Sud. Ima Fata, c'est le cri plein de vie de ce groupe de musique né en pleine guerre civile, quand les groupes armés islamistes du Nord Mali avaient interdit la musique profane, qualifiée de musique de Shaitan, du Satan. Alors, le Songoï Blues est entré en résistance, comme l'indique le titre de leur deuxième album, avec pour Kalachnikov et autres lance-roquettes des guitares et des textes qui n'en font qu'à leur tête, avec des rythmes Songoï, funk ou tamashek, et avec notamment la complicité d'un iguane qui a répondu à l'appel du Sahel, Iggy Pop, Songoï Blues dans Ping Pong, avec le titre Bamako.
On danse.
Il est 21h au clock, me voilà sur la route. Mais tous les restos immeubles de la capitale sont déjà sold out. C'est le rendez-vous du peuple au carré pour de la joie.
artistes décidistes, on sait que là c'est la même piste. C'est beau de voir tous ces couples bien habillés qui nous arrivent à bout. Les idées sexy, les garçons chauds. Samedi soir, c'est le show. Le bruit c'est scandale. Mais la forêt entière qui pousse, on n'entend que dalle. C'est des rumeurs, on s'en passe de la peur. Faisons la fête. Samedi soir à Bamako sur ma moto. Samedi soir à Bamako sur ma moto.
Ima Fata, alors c'est pas du cha-cha-cha comme dirait Zoé Valdès, c'est un petit air de Claude François du Normali, hein, sur le refrain, et c'est très blues aussi du Sahel, c'était le morceau Bamako, extrait du nouvel album des Maliens, donc de Songoy Blues. Leur nouvel album c'est Résistance et il est paru sous le label anglais Transgressive.
1, 2, 3.
Oh yeah. Mathilde Serrel, Martin Kenéen. Ping, pong. Ping pong, la culture sans limite.
Il me faut de lentes et longues promenades dans la ville pour percevoir, comme un murmure lointain, la densité d'une présence impalpable. Pas un millimètre qui ne soit tissé de cendres, d'os et de pierre. Pas un espace qui ne contienne un moellon décelé. Partout le regard déchiffre un bout de mur, un reste d'escalier, un carrelage qui tatoue le sol. Et puis, une masse indéchiffrable, habitée par l'herbe folle, recomposée par elle, et qui semble avoir emprisonné des blocs de paix et d'impossibilité. Cette perception n'est accessible qu'à un lâcher sensible, une vraie maraude de l'imagination maintenue disponible. Certaines ruines ont résisté à l'envahissement. Aucune maison ne les a recouvertes. Elles ont conservé d'étroites cohérences que la prolifération verte magnifie d'un embrouillonnement abandonné. Ce mélange de pierres moussues et d'herbes folles proliférantes, ces mortiers qui bourgeonnent, ces bouquets de fleurs libres induisent le sentiment d'une sagesse ancienne, d'une contraction de plusieurs âges de redevenus sauvages. Le manque n'est pas incréé. Il persiste d'une présence défaite qu'on ne saurait pour autant dépasser. Les bassins sont nombreux, les caniveaux partout. Ne subsistent que les flots de lumière, les scintillements pierreux d'une chaleur sans manquement. Le ruissellement est là. Face à ces ruines, l'historien est gardé en surface. L'archéologue suit quelques pistes, mais s'arrête aux portes de l'imagination. Le guide, lui, est forcé de se taire. Ne reste à l'esprit libre que la fréquentation tranquille d'un indicible. La perception d'une ville invisible qui vit d'un archipel d'atmosphères, de situations insensées, de lieux dysfonctionnels, d'espaces impraticables pour la vie ordinaire et qui attirent trop facilement l'ordure et le déchet, comme si cette indéfinition foudroyait l'esprit nourri de certitude, le forçait à l'insulte. La ville apparente se débat dans le vif d'un invisible qui vit encore sans fonctionner, qui résiste en une géographie absurde et qui s'impose ainsi par le triomphe d'une émergence. La pierre noire, la cendre grise, la mousse des abandons, les couleurs de la ville invisible, étendue à ras de sol, errent entre le noir et blanc. Les éclats de lumière, l'omniprésence du bleu ciel et du bleu mer, les effusions vertes des touffes d'herbes et des lianes semblent relever des évidences de la ville apparente. Les ruines, elles, les vestiges aussi, pourtant exposés à ces flots de lumière, semblent surtout concentrer du mystère, c'est-à-dire de la profondeur, de l'immobile en lente métamorphose, des ombres qui fermentent et d'un informulable que fréquente sans atteindre l'éblouissement solaire. Depuis le départ de Man Ninotte, j'ai appris à ne pas nommer les ruines, à n'envisager que leur indéchiffrable, à cheminer seulement disponible le long de ces vestiges qui n'élaborent aucune parole audible. Le plus vertigineux, ce sont ces escaliers, parfois suspendus dans le vide, menant toujours, sinon nulle part du moins, à une déficience. Chaque marche est une composition, un concentré de détails qui ont dû être utiles. Chaque pavé est un champ qui ne se souvient de rien. Leur ensemble construit comme une voie diffuse qui ferait du marcheur sa propre destination. Ces pierres ont quitté la mémoire coloniale pour aspirer et concentrer tous les silences. Amérindiens, esclaves, flibustiers, pirates et marins, marchands et musiciens, immigrants et nomades. Et puis ces nouveaux pierrotins dont l'histoire n'a pas capté l'engeance, qui ont mené la conquête des misères d'où est née la ville apparente. Tout est là, dans une densité que seule la pierre supporte, que la pierre seule figure.
Kaïgé Kagame, à l'instant, en direct dans cette salle du Sénéchal pour la 13e édition du Marathon des mots ici, à Toulouse, avec ce silence peut-être que nous pourrions avoir ensemble, car on entendait les mots monter comme ça dans l'espace par votre voix, pour essayer. C'est le silence que vous avez entendu, vous, dans ce livre, Kaïgé Kagame. Ça parle de la mort de Man Ninotte. La mère de Patrick Chamoiseau, qui le raconte, La matière de l'absence, qui est publiée au Seuil. Et pour vous, c'est un livre sur le silence, en quoi ?
Déjà dans l'exercice, c'est-à-dire que je regrette même d'avoir pas laissé un petit peu plus de temps entre les mots, parce que je pense qu'on entend vraiment encore plus une langue en écoutant le silence qu'il y a derrière les mots. Et voilà...
Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans ce texte ? Vous allez porter beaucoup de lectures. C'est pas que vous avez habité plus ou moins les textes et que vous avez moins vous donner dans l'interprétation que vous allez livrer ici au Marathon des mots, mais il y a quelque chose qui vous a touché plus particulièrement dans ce livre de Patrick Chamoiseau. Pourquoi ?
C'est justement... je pense qu'il y a vraiment une langue qui me plaît énormément. Et puis, l'exercice de la lecture, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment un exercice et j'ai souvent tendance d'aller par exemple un petit peu vite et puis avec la langue de Chamoiseau qui est incroyable, on ne peut pas tellement se permettre de slalomer dessus et puis de ne pas faire vivre en fait chaque mot en fait. Il y a énormément de sens dans quelques mots. Enfin, sur deux lignes, il y a énormément de sens, et puis du coup, on est obligé un petit peu de s'arrêter, en fait. Donc voilà, c'est aussi ça qui m'a énormément plu. Et puis par rapport au fait que tout à l'heure, j'ai essayé un petit peu de parler sur la question du génocide qui s'est passé dans mon pays, au Rwanda. La phrase qui résonne le plus souvent, c'est enfin, qu'on dit le plus souvent, c'est exprimer l'inexprimable. C'est vraiment une phrase qui m'a énormément marquée et qui pour le coup fait sens encore aujourd'hui pour moi. C'est que voilà.
C'est la matière de l'absence.
C'est aussi la matière de l'absence. Et puis ce qui est magnifique aussi, c'est que dans ce livre-là, il parle tout autant de la vie, de ce qui reste et que du départ de sa maman. Et d'ailleurs, il y a aussi ce petit passage où il dit qu'ils ont plus tendance à célébrer en fait aussi la vie d'une grande personne qui a été sa mère que la mort, le rien, le vide. En fait, il y a une absence, mais ce qui comble l'absence, c'est la vie qui continue et tout ça, quoi. Ouais.
Zoé Valdès, vous qui êtes aux côtés de Keiji Kagame ce soir, à nos côtés, mais aussi dans le cadre de ce marathon des mots, avec votre livre La Havane, mon amour, il est aussi question d'une sorte de déambulation dans des ruines, avec des fantômes, où vous faites ressurgir cette Havane de votre enfance. Comment est-ce que vous avez entendu ce texte de Chamoiseau et cette évocation de ruines ?
Déjà, je dois dire que Chamoiseau, c'est un peintre aussi, c'est un peintre des silences. C'est un peintre aussi de la mélodie des mots. C'est très important pour un écrivain. Et découvrir, redécouvrir ça chez lui, c'est pour moi vraiment un bonheur. C'est un bonheur. Et puis, elle lit avec justement la voix, les tons, les calmes aussi.
Vous pouvez le dire en habanais, hein, en habanero, si
la
vous voulez.
La calme que se necesita para... verdaderamente no solo devorar el texto, la escritura, sino también que la escritura, que el texto la devore a ella.
C'est une langue.
Elle se laisse aussi dévorer par
le texte.
Oui, et c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux.
Ce qui est fascinant aussi dans le texte que vous avez choisi, Keiji Kagame, c'est que, on le sait, Patrick Chamoiseau, il fait aussi fond sur un indicible qui est l'histoire de l'esclavage à la Martinique en particulier, puisqu'il est originaire de Fort-de-France. Et en même temps, il y a ce passage à la fin du texte que vous nous avez lu où il propose aussi d'autres strates historiques, d'autres imaginaires de flibustiers, d'indiens, de pirates. Est-ce que vous, qui êtes donc rwandaise, où on a l'impression, où souvent on renvoie au fait qu'on a l'idée que l'histoire du Rwanda se résume à cette année 1994, qui est évidemment essentielle parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut plus dire ou qu'on ne peut plus dire de la même façon après, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres strates qui vous composent, parce que je crois que votre grand-oncle était notamment un grand historien du Rwanda précolonial. Du coup, vous avez aussi des références, vous avez vos vikings, vos pirates à vous dans votre histoire.
Oui, non, mais c'est important de dire aussi que le pays aujourd'hui va extrêmement bien, que des fois c'est incroyable de se dire qu'on a pu effectivement aller dans le comble de l'horreur et puis aujourd'hui arriver à un tel degré de paix. Le pays va vraiment très très bien et effectivement j'ai dans ma famille énormément de personnes qui sont sensibles à la littérature, à la musique. Mon frère Chaka Kagame vient de sortir son film Bounty. D'ailleurs, je pense très fort à eux, c'est pour ça que je panique un peu de pas bien parler. Mais oui, c'est un pays qui regorge d'énormément de richesses, et puis de contes, de proverbes.
Et de superstitions, parce qu'il y a des superstitions terribles chez Zoé Valdès. Hein. Si on ne regarde pas la rue dans les yeux, je crois qu'elle peut nous arracher les yeux. Il y a quelque chose comme ça à la Havane ?
Oui, mais pour les Cubains, c'est une histoire de superstition, l'histoire de Cuba. C'est une histoire de superstition, de désir en même temps, et une histoire aussi de superstition, aussi très sensuelle. C'est lié au corps, c'est lié au désir, comme je disais tout à l'heure, et c'est lié aussi à une culture qui est métissée, la culture africaine, la culture espagnole et la culture de d'autres parties, par exemple de la présence chinoise aussi, asiatique, qui était très importante dans l'île.
On n'a peut-être pas évoqué ce livre qui, pourtant, me semble important dans la conversation qu'on était en train d'avoir sur le Rwanda et sur les mots à trouver. Ça se passe entre le Burundi et le Rwanda. C'est le petit pays de Gaël Faye qui s'est révélé comme ça. Il a, pendant des années, travaillé dans le rap. Et puis, c'est en tant que romancier, finalement, qui s'est vraiment imposé. Vous l'avez lu, Kaiji Kagame et Zoé Valdez?
Oui, et puis surtout, j'ai beaucoup écouté sa musique. Effectivement, il faisait du rap, mais déjà depuis très très longtemps. Même à l'époque, j'étais à l'ENSAT, encore à l'école, et j'avais utilisé un de ses textes. D'ailleurs, le dramaturge de l'école, Gérald Garouti, m'avait demandé qui c'est qui avait écrit ce texte, alors que pourtant, j'avais fait un peu un découpage de textes de plusieurs auteurs. Enfin, ça passait de Molière à Gaël Faye. Mais non, pas à ce point.
Bien sûr. Voilà ce qui vous compose. Non.
Dans la langue de Molière et de Gaël Faye, désormais.
Non. Ben bon, on reconnaît évidemment que c'est pas la même époque, mais ce que je veux dire, c'est que sa musique, elle est déjà énormément imprégnée d'une langue extraordinaire. Et effectivement, il est.
Et les mots qu'il trouve justement, ouais, parce que c'était votre questionnement sur cette période.
Bah, ce qu'il y a de beau, je trouve, c'est qu'il prend le parti pris justement d'évoquer la vie justement et pas de parler, d'avoir un discours, disons, de pouvoir justement permettre au lecteur d'entrer et de parler de cette période de manière avec toute la vie et je sais pas si le mot misérabilisme c'est bon pour utiliser, mais en tout cas il a utilisé un chemin pour entrer dans cette histoire qui est sublime. Et puis il a justement c'est un poète quoi, il est incroyable quoi.
Mais alors il raconte la vie mais aussi la folie, et Leonardo Padura, écrivain cubain qui sera donc demain à l'honneur et dont vous allez lire aussi des textes, Kaiji Kagame, lui dit que la Havane, c'est comme un regret sans fond. Est-ce que Zoé Valdez, on peut dire que d'être exilé depuis si longtemps, d'être si loin de cet amour, ce grand amour de votre vie qui est la Havane, ça vous a rendu folle?
J'étais déjà folle de toute façon. Je suis grandi dans la folie de ma mère, ma grand-mère, ma tante, trois femmes.
Une comédienne d'ailleurs.
Oui, une comédienne absolument folle. Et je crois que c'est évidemment la folie qui m'a fait devenir écrivain, ou m'a sauvé, l'écriture m'a sauvé de la folie, peut-être, je ne sais pas, parce que je continue à être folle. L'exil, par contre, c'est vrai que l'exil, pour moi, j'ai aucun regret. Je suis vraiment dans le parfait état de découvrir, de rencontrer des gens, de découvrir des comédiennes et des comédiens, des musiciens. Ça m'a attristé beaucoup, évidemment. J'étais même malade physiquement. Mais d'une autre part, ça m'a beaucoup enrichi. J'ai découvert d'autres réalités et j'ai pu comparer et j'ai pu être un être peut-être dans ma folie beaucoup plus équilibré.
Cet exil, c'est en France, où vous continuez à avoir votre folie à votre manière, quand même, Zoé Valdez. Vous choisissez cet exil dans le pays des lectures, finalement, qui vous ont bercé avant, car les restes des membres de votre famille ne vont pas choisir la France. Comment, justement, on parlait de Habanero tout à l'heure, comment vous avez approché cette langue pour qu'elle devienne votre langue d'écrivain, Zoé Valdez, le français?
J'étais très très petite quand j'ai entendu pour la première fois le français. C'était grâce à ma grand-mère qui était comédienne, très mauvaise comédienne, il faut le dire.
Folle et très mauvaise comédienne.
Très mauvaise comédienne. La pauvre, elle se croyait la grande comédienne, mais même moi qui avais 7 ans à l'époque, je me disais, elle est mauvaise.
Et d'ailleurs, vous écriviez aussi des scénarios pour votre mère, parce qu'elle jouait dans des mauvais films.
Oui, et tremblait de pudeur, de peur, mais elle voulait être comédienne, elle était comédienne quand même. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi
parler du français.
Oui, et alors, elle a eu l'idée de déclamer des poèmes de Baudelaire. Elle ne parlait pas français, évidemment, mais on lui a dit qu'il y avait un poète qui s'appelait Baudelaire qui parlait de la chair, de la sensualité, le désir, la chaleur, le chaud et tout ça. Et un jour, elle est venue avec un poème qui, elle m'a dit, c'est le premier vers, j'oublierai jamais, elle a dit, écoute ça, c'est ça, il laisse des géants m'empêcher de marcher. Je dis, mais quelle horreur, c'est quoi ça? Évidemment, c'était ces selles des géants m'empêchent de marcher. Mais grâce à elle, j'ai eu les premiers contacts avec cette langue magnifique.
Ping-pong. Esia a cavallo. Si.
Merci beaucoup. À toutes deux. Zoé Valdés, donc La Havane, mon amour.
Bravo.
C'est votre dernier livre, publié en français chez Artaud. Et ce soir, à 20h30, donc vous êtes attendus, il va falloir filer à la salle Jean Dieuzet à Saint-Oran de Gambville, dans le cadre de ce 13e marathon des mots de Toulouse Métropole. Saint-Oran, ça. Et vous êtes un peu habanero ici aussi. Hein, j'oubliais le côté espagnol de Toulouse. Merci Kaiji Kagame.
Merci
au Marathon des mots. Donc vous prêterez votre voix demain soir à Leonardo Padura et Patrick Chamoiseau. C'est à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines à 14h30. Merci au public du Sénéchal.
Le ping-pong est un applaudissement radiophonique qui se provoque en équipe et quelle équipe à la rédaction Aïssat Wendoy, Jeanne Aléo, Séam Boutata et Anna Baron, à la réalisation Thomas Beau et à la prise de son ce soir et la grande équipe technique Franck Malabry, Laurent Macchietti, Sébastien Huel et Adrien Gazza. C'est un peu d'Italie. Grazie mille. Dans quelques...
Lundi, ça continue. Ping-pong vous donne rendez-vous avec le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier.
Du féminisme, c'est maintenant et c'est dans À Voix Nue sur France Culture.